Nous allons voir semblable à Jésus dans son humilité. J'ai la misère avec l'humilité, mes frères. Je vous confesse. Secret entre vous et moi. Mais une fois, il y avait une maman qui voyageait avec son petit enfant, un garçon de 8 ans, 7 ans, dans un autobus. Puis il passait par un terrain pas mal difficile. Alors il fallait que tout le monde assis. Puis le petit voulait. Il jouait, il voulait se mettre debout. Alors sa maman lui disait, assieds-toi. Puis le petit, un petit peu, je ne sais pas s'il s'appelait Mauricio, mais il ne voulait pas. Et la maman, il insistait, non, assieds-toi. C'est dangereux, tu vas tomber. Et le petit ne voulait pas. Jusqu'à ce que maman perd patience. Mais avec l'amour qui caractérise les mamans, il a pris le petit, assieds-toi. Et il l'assit. Le petit s'est assis. Il dit, oui. Physiquement, je suis assis, il a pensé, mais en dedans, je suis debout. Et parfois, c'est drôle peut-être, mais les adultes, on agit comme ça parfois aussi. Devant tout le monde, je suis comme ça, mais en dedans, moi, là, il faut faire attention avec ça. Parce que c'est Dieu qui nous regarde. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. On a un engagement plus direct envers le Seigneur. Parce que lui, il ne va pas demander à ceux qui sont éloignés de lui, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de lui obéir ou d'être humble. C'est à nous qu'il nous demande. C'est dans toutes les sphères de la vie. Ce n'est pas juste dans un domaine. Comme quelqu'un, j'ai connu un chrétien, pas de cette église. Ici, il y a juste des spirituels de notre église. Il faisait des choses un petit peu. Il était commerçant, mais il faisait des choses parfois, il abusait un petit peu. Et je me suis rendu compte. Une fois, j'étais là et j'étais témoin. J'ai attendu, quand il a fini son affaire avec la personne qui faisait le business, je suis venu, je me sentais mal, mais je me sentais concerné. Je connaissais les deux personnes. Alors, je me suis approché de lui et je lui ai dit, j'expliquais que j'étais là et que c'était pas bon. Et il m'a dit, oh, ça c'est le business. L'Église et la vie chrétienne, c'est une autre chose. Mauvaise compréhension de l'Évangile. Très mauvaise compréhension de l'Évangile. Je suis chrétien à 100%. Ici, au travail, sur la rue, c'est mieux d'accepter nos fautes. C'est plus honnête devant Dieu qu'essayer de justifier. Et ce monsieur, c'était un leader de l'Église où il habitait et il allait. Alors, c'est très, très délicat. Mais si on parle d'humilité, qu'est-ce que c'est l'humilité? Est-ce qu'on pense souvent, est-ce qu'on réfléchit sur l'humilité? Pas tout le temps. Hein? Comment est-ce qu'on peut définir d'une façon un peu plus humaine l'humilité? Parce que j'ai regardé le Robert Illustré, puis le Robert Illustré dit « Sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. » Même le Robert Illustré. « Sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. » Et selon la Bible, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Voyez-vous, j'étais surpris. Le Robert aussi disait presque la même chose. Je ne sais pas si on pris la définition de la Bible, mais c'est à peu près la même chose. Et si nous allons voir notre texte d'aujourd'hui, nous allons voir dans Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est vraiment très difficile pour nous en tant qu'êtres humains de comprendre. Et l'humilité, selon la Bible, va plus loin de ce que nous puissions penser. L'humilité, selon la Bible, va... Et Jésus-Christ, c'est lui-même le meilleur exemple. Si on considère un petit peu l'humilité de Jésus-Christ, comment est-ce que pas à pas, on peut voir son humilité? Première chose, je l'ai divisé en quatre étapes, si vous voulez, si vous permettez le mot, en forme de Dieu égale à Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend pour cette phrase? En forme de Dieu égale à Dieu. C'est la première partie dans laquelle on voit très clairement l'humilité du Seigneur Jésus. Comment on interprète en forme de Dieu égale à Dieu? Comment est-ce qu'on voit son humilité dans cette phrase? Lui, le Créateur, prend la forme d'une créature, et ça, c'est un abaissement énorme qu'on ne peut pas comprendre. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Parfait, le Dieu Saint, décide de prendre la forme d'un humain, d'une créature qu'il a fait par amour à nous. Ça, c'est peut-être un des plus grands abaissements. Parce que lui, il n'avait pas besoin de faire ça. Hein, quitte sa gloire. Il n'a pas cessé jamais d'être Dieu, que ce soit clair. On ne peut pas comprendre dans toute son extension cette vérité-là. Mais si quelqu'un comprend très bien, voulez-vous s'il vous plaît nous enseigner? Et vous êtes rendu presque comme Dieu. Là, parce que comprendre comment est-ce que ce mystère-là, il se passe, il se produit, c'est très difficile. Je ne crois pas qu'à part de Dieu lui-même, personne ne comprendrait comment est-ce que se produit cette chose. Les théologiens, dans les mots théologiques, ils disent l'union hypostatique de Jésus-Christ. Comment est-ce que la divinité, le physique s'unit, et il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il est 100% homme. Très difficile. Hein? Mais c'est lui qui a décidé de le faire. Il a pris la forme humaine, et étant égal à Dieu, il n'a pas estimé cette chose-là pour lui-même. Puis il a voulu laisser cet privilège. La deuxième chose, c'est son incarnation. Il s'est dépouillé lui-même. Ils sont liés, on ne peut pas les dissocier, ils sont liés très, très étroitement les uns de l'autre, mais son incarnation, premièrement, il est Dieu. Il a existé de toute éternité avec Dieu le Père. Hein? Et Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Vous savez que dans le grec, le proston theon, ça veut dire qu'il était à côté de son père. C'est comme s'ils sont assis un à côté de l'autre, et comme s'ils discutaient comment est-ce qu'on commence à créer. Tellement, c'est comme quelqu'un qui est mais proche, proche, intime, comme une unité, tellement proche. Alors, c'est ça, Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. Alors, il est là, mais il prend la forme de Dieu, mais là, il décide. Comme un pasteur disait une fois, la Trinité s'est mise à une petite réunion, une petite discussion. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? L'homme a péché. Maintenant, selon ce que nous avions décidé au début, avoir une communion parfaite avec lui. Mais lui, il a décidé le mal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis la Trinité a dit, il faudrait que quelqu'un de nous aille pour pouvoir racheter l'homme, l'humanité, et qu'on puisse rétablir cette relation que on a tant voulu avec nos créatures. Jésus-Christ dit, je vais aller. Lui-même. Parce que parfois, on pense, c'est comme si Dieu, comme Jésus-Christ est le fils du Père, il doit l'obéir parce que là, on fait le lien comme nous. D'une certaine façon, c'est possible. Mais là, comme je vous dis, de toute éternité, la Trinité, là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils réunis, ils disent, Jésus-Christ dit, je décide d'y aller volontairement. Ce n'est pas l'ordre du Père. C'est lui qui a décidé de lui-même. Et puis, OK. Et vous savez, vous voyez comment il y a une parfaite harmonie dans le salut de l'homme, de l'humanité. Dieu le Père, c'est lui qui pardonne le péché. Dieu le Fils, c'est lui qui se donne pour le péché. Et Dieu l'Esprit Saint, c'est lui qui convainc de péché. Voyez-vous comment l'harmonie est parfaite? Comment est-ce que chaque personne de la Trinité s'occupe d'une façon particulière, disons, d'un ministère particulier pour le salut de l'homme? Mais Jésus-Christ décide, alors il dit, mais comment est-ce qu'on va le faire? Je vais m'incarner. Je suis Dieu, mais je décide par amour et pouvoir rescaper l'homme de son péché. Je décide de prendre la forme humaine, m'abaisser à ce point-là. Alors il est venu, puis il a décidé. C'est son incarnation. 1 Timothée 4:16. Grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Dieu s'est fait chair. Alors, c'est un grand mystère. Un grand mystère. Et sans péché. Un homme, 100%, mais sans péché, 100%. Troisièmement, pas seulement ça. Il s'est incarné. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas cessé jamais d'être Dieu, mais il s'est dépouillé. C'est comme s'il a renoncé à ces attributs de Dieu. Et alors, vous allez me dire, mais alors, comment est-ce qu'il a fait tous les miracles qu'on voit? Il demandait à son Père. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous allions faire même des choses plus grandes que lui, à ses disciples. Comment? Comment est-ce que nous pouvons faire des choses plus grandes que lui? Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit, par le Saint-Esprit, mes frères. Jésus-Christ faisait tous les miracles parce qu'il avait une communion parfaite avec son Père, puis avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui agissait puissamment en lui et lui montrait toutes choses. Parce qu'il a cessé, et il n'a jamais utilisé son pouvoir pour son bénéfice. Sinon, le Père n'aurait pas accepté le sacrifice que Jésus-Christ faisait, ou qu'il a fait. Parce qu'il aurait triché. Bah, c'est facile pour Dieu faire quelque chose pour... évader un petit peu la douleur, le sacrifice. Non, il ne l'a pas fait. Il a accompli toute la loi telle qu'elle était prescrite. Et lui, c'est, quand il tenait, voyez-vous, quand la tentation de Jésus-Christ, on a vu, lui, il a refusé. Il était faible. Il était vraiment affaibli en tant qu'homme pour la situation. Mais il a renoncé à son attribut de Dieu. Troisièmement, l'expiation, l'humiliation, l'obéissance, la passion. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est ça que nous dit la parole. Alors, c'est juste pour effectuer l'expiation de l'homme. Il s'est humilié, il a obéi, il a passé par ce qu'on connaît comme la passion, ici sur terre, pour arriver jusqu'à son sacrifice sur la croix, par amour à nous. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on comprend tout bien ça. L'humiliation du Seigneur, et c'est une humiliation extrême. Parce qu'il n'a pas seulement pris chair comme une créature, mais il est allé comme le pire des délinquants ici sur terre. Il y avait même une malédiction de la parole pour celui qui est pendu au bois. Alors, il se fait malédiction littéralement par amour à nous. Alors, c'est un abaissement encore plus grand. Et finalement, le quatrième, le couronnement. Là, ça, c'est différent. Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il s'est humilié. Il est mort, il est allé jusqu'à la croix pour nous. Puis là, Dieu l'a élevé selon sa décision, selon l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ avait effectuée. Ça, c'est pour commencer. Son adorable divinité, les quatre étapes que je dis, en forme de Dieu, son incarnation, l'expiation, l'humiliation, et puis la quatrième étape, c'est la dernière, que c'est un résultat de son humiliation, le couronnement que Dieu élève à Jésus-Christ dans une position suprême en tant que sauveur, en tant que rédempteur de la race humaine. Et maintenant, l'humilité, maintenant, est un acte volontaire, comme je disais au début, est personnel. Si vous voyez Éphésiens 2, le verset 8, il s'est humilié qui, lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, si on pense, premièrement, si on voit le verset 7 aussi, il s'est dépouillé lui-même, il a décidé. Alors, si on applique ça à notre vie, à nos expériences personnelles, mais est-ce que la patience, l'utiliser comme un synonyme d'humilité? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi, je voyais aussi une différence, mais je ne trouve pas le mot en français pour définir une situation entre patience puis humilité. Il y a un certain lien, mais ce n'est pas la même chose. Parce que vous savez, mais les mots employés en français pour définir cette attitude de Moïse, c'est la patience. Mais la patience, ce n'est pas exactement la même chose que l'humilité. Mais en espagnol, on dit que Moïse était un hombre manso, qui vient de mansedumbre. Et comment tu dis en français? Mansuétude, voilà. Mansuétude, c'est le mot peut-être équivalent. Mais pourquoi on n'a pas employé ce mot-là? Parce que mansuétude, il donne une meilleure idée et c'est plus proche. On pourrait presque l'utiliser comme un synonyme d'humilité. Et parce que Moïse était patient, mais était en même temps avec qu'il avait la mansuétude. Je ne sais pas comment l'appliquer. Voyez-vous? Et en espagnol, ça s'explique très clairement comme ça. Plus que tous les hommes de son époque. Et c'est la parole que le dit. Et nous allons lire plus tard en nombre le passage, parce que c'est très intéressant. Parce que c'est la parole qui le dit. Qui est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est David. Qui est l'ami de Dieu? Pardon? Non. Abraham. Et de Moïse, Dieu ne dit pas ça. Mais il donne, nous allons voir comment, dans quelle position Dieu met à cause de son humilité à Moïse. Et là, c'est le mot spécifique pour Moïse. Et voyez-vous, parfois, c'est juste au moment de faire les traductions que les traducteurs n'ont pas pensé au mot comme ça. Mais moi, ça décrit un peu plus comme humilité, cette attitude-là. Alors, c'est très intéressant, voyez-vous, comme qualificatif pour Moïse. Et là, c'est la parole qui le dit. Si Dieu le dit de Moïse, ça veut dire que c'est vrai, hein, que c'est vrai. Et moi, je crois que, comme je répète, c'est là, peut-être oui. Mansuétude, c'est presque comme un synonyme qu'humilité. Parce que, voyez-vous comment est-ce que Moïse a réagi quand il a été attaqué? On a voulu même le tuer, on a voulu l'écarter complètement. Il n'a pas agi avec violence ou avec une attitude arrogante ou d'attaquer, de contre-attaquer, qu'on fait normalement les êtres humains. Alors, c'est vraiment quelque chose, oui. Non. Non. C'est ça. Oui. Oui. Il y a des situations dont Dieu nous permet, et ce n'est pas un péché, d'agir pas patiemment. Hein? Parce que même l'apôtre Paul, quand on l'a giflé, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me frappes-tu? Paul aussi. Quand il a dénoncé celui qui voulait le gifler, parce qu'il dit... Pardon? En tout cas, je n'ai pas en tête le passage spécifiquement, mais il n'a pas accepté. Jésus-Christ lui-même.
Oui.
Jésus-Christ lui-même.
Il a traité d'hypocrite les grands curés.
Oui. Toutes les choses, quand il sait le péché, l'irrespect des hommes par rapport aux choses de Dieu, il a le dépassé, il a dénoncé ça. Hein? Et ce n'est pas contraire à l'humilité. Alors, nous, je pense que c'est nous les chrétiens qui devons être plus sensibles aux injustices. Parce que nous avons cette partie divine, si vous voulez, en nous, que c'est le Saint-Esprit, qui nous montre l'injustice, qu'on perçoit d'une façon plus claire les injustices. Et on devrait agir, mais c'est parfois même, on fait une parenthèse, mais il faut que je le dise, qu'est-ce que fait l'Église chrétienne parfois dans des choses qui se passent dans le monde? Et on garde silence. Hein? De tant de choses, des points qui sont vus maintenant naturels par la société et qui vont contre les principes bibliques, contre le moral même de la société. Qu'est-ce que fait l'Église chrétienne? Hein? Il faut, à un moment donné, je crois que l'Église chrétienne devra prendre position et puis dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Et c'est sûr qu'on sera persécuté, on sera mal vu. Déjà, on est mal vu. À moi, on m'a déjà posé la question. Les évangéliques, ils n'acceptent pas les homosexuels. Ils n'acceptent pas les lesbiennes. Je dis, mais écoute, on est des personnes. Je crois que nous, les chrétiens, on doit avoir la même position que Jésus-Christ, que Dieu lui-même. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Alors, je vais respecter un homosexuel ou une lesbienne parce qu'elle est une personne. Je n'ai pas le pouvoir de juger. C'est Dieu qui juge tout le monde. Et s'il vient à mon église, elle sera bienvenue pour qu'elle écoute l'Évangile. Mais est-ce qu'il sera accepté comme membre dans ton église? Je dis non, parce que là, il passe par des principes spirituel en premier, puis après, d'une façon légale, si vous voulez. Mais je ne veux pas expliquer toutes ces démarches-là, mais je dis, mais il sera bienvenu toujours à mon église, s'il vient. Et on va le respecter en tant que personne. Pas pour le fait d'être homosexuel ou lesbienne. On n'a pas le droit, mes frères. Si Dieu ne le fait pas, pourquoi nous, en tant que chrétiens, on va irrespecter ou violenter quelqu'un par ce péché? Alors c'est ça. Mais on continue. Nous devons imiter, bien sûr, Jésus dans son dépouillement. On est là pour ça. On est là pour apprendre de l'humilité de Jésus-Christ. Si on n'arrive pas, et je vois très difficilement arriver à l'humilité du Seigneur, mais qu'au moins on fasse des efforts. Parce que ma question, ou la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je fais des efforts pour être humble? Comment j'ai réagi quand il y a un frère, une sœur dans l'église qui m'ignore ou qui carrément me démontre qu'elle ne m'aime pas? Ça arrive, hein? Ça arrive. Je vais agir pareil, là. Ça, c'est la réaction immédiate, c'est ça. Mais on doit réfléchir, encore une fois, on doit réfléchir, on doit revenir. Commencez par des petites choses, mes frères. Hein? Comme quelqu'un disait, oui, oui, mon frère. Mais alors, commençons pour pratiquer la patience. Et prions, parce que c'est ça. C'est une question, mes frères, c'est d'être conscient de notre responsabilité. Non? Et là, même si on voit, et moi je le vois aussi, arriver très difficilement à imiter Jésus-Christ à 100% dans son humilité, mais c'est ça que Dieu nous demande. Mes frères, ce n'est pas que si on est chrétien, si on est conscient de notre vie devant Dieu et notre responsabilité devant Dieu, on doit prendre ça au sérieux. On doit prendre ça comme, pas comme, oh, ok, ben. On a écouté que Jésus-Christ s'est humilié aujourd'hui. Non, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Parce que c'est une demande de Dieu pour moi. Et comme dit mon frère, c'est pas. Et je suis d'accord, comme vous avez expliqué, la patience et l'humilité sont deux choses différentes, mais que Dieu me demande de pratiquer. Oui.
Concernant l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil veut être roi. Oui. L'humilité veut être.
C'est une demande d'image. Oui, mon frère. J'ai une question ici pour discuter, parce qu'il y a un concept, je ne sais pas, peut-être on n'est pas à 100% conscient, mais même si on le manifeste. La question c'est, sommes-nous humbles à cause du péché? Je vais la poser d'une autre façon. L'humilité en nous est le résultat du fait que, de savoir que même étant chrétien, nous péchons. Vous avez compris la question, j'espère? Ben, Richard l'a compris déjà. Je répète, l'humilité en nous est le résultat du fait de savoir que même étant chrétien, nous péchons. Est-ce que c'est ça qui produit l'humilité en nous ou qui doit produire l'humilité en nous? Le fait de savoir que même si je suis chrétien, je pêche, c'est ça la façon ou le point qui me permet d'être réalisé? Parce qu'on croit tout ça, hein? Tous, on croit, même moi aussi, je crois. Et il y a sa place, ce fait-là. Parce que ben, même la Bible nous dit, quand je viens reprendre mon frère pour une faute qu'il a faite, que je le fasse comment? Avec douceur, avec humilité. Parce que je suis capable de faire ça, ou pire que mon frère. Alors, il y a une certaine raison. Je dois être humble parce que je sais que je suis capable de pécher autant que mon frère. Qui a péché contre moi. Et je suis capable de faire pire que mon frère. Mais ce n'est pas ça ne devrait pas être la vraie raison pour laquelle on est humble. Et je vais vous expliquer pourquoi. Malgré que c'est vrai, c'est un concept biblique, et c'est vrai que c'est très important que nous soyons conscients qu'on est pécheur et que je suis capable de pécher, et que ça doit m'amener d'une certaine façon à pratiquer l'humilité. Mais je commence à dire avec deux choses. Existe-t-il deux sortes d'humilité ou une seule sorte, une seule humilité? Est-ce qu'il existe deux façons d'être humble ou pas? Mon frère est d'accord? Une fausse humilité? Ben alors si c'est une fausse humilité, c'est pas l'humilité. Mais vous avez raison. Je dis pas que vous êtes dans le tort, mais je parle de la vraie humilité. Qu'il y a deux sortes d'humilité. Oui, mon frère. Tu t'approches, mon frère. Tu t'approches. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? OK. Mais je crois que c'est bon. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bien. Mais c'est toujours dans la sphère d'une humilité que je vais vous expliquer. Oui, mon frère. Oui, complètement au contraire. OK, je vais vous dire, je vais s'expliquer pour que vous ne partiez pas. Comment ça se fait que ces frères-là, ils viennent nous mettre dans le pétrin? L'humilité, que tantôt on a parlé, que on a discuté, que c'est vrai, que c'est le fait de savoir qu'on est pécheur nous rend un petit peu humble. C'est vrai, c'est biblique. Ça, c'est l'humilité humaine. Nous permet de reconnaître nos péchés devant Dieu, comme disait mon frère, et devant les hommes aussi. Hein? Parce qu'on doit reconnaître nos torts devant les hommes aussi. Hein? Et c'est un acte d'humilité. Ça, c'est l'humilité humaine. Et je ne dis pas que ça ne glorifie pas Dieu, mais il y a une humilité céleste, plus divine, que nous pouvons pratiquer. Et vous savez quoi? Je voudrais que quelqu'un m'aide à lire Jean 13, verset 3 au verset 5. Jean 13, 3 à 5. Oui, vas-y, mon frère.
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à essuyer avec le linge dont il était saint.
Est-ce que vous comprenez l'humilité divine? Si vous réfléchissez le texte comme il faut, regardez le verset 3, il dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses. Qu'est-ce que c'est remettre toutes choses entre ses mains? Qu'il a donné tout pouvoir. L'humilité, je vais vous le dire, pour que vous ne restiez plus dans la réflexion. L'humilité divine qui dépasse l'humilité humaine, c'est celle de savoir que même si je n'ai pas péché, je m'humilie pareil devant Dieu. Même si je sais que j'ai pratiqué l'intégrité, je pratique quand même l'humilité telle que Jésus-Christ. Sachant que Dieu, si moi j'étais purement humain, maintenant j'ai tout pouvoir, alors je ne m'humilie pas, je ne passe pas par la croix. Disons, pour vouloir vous montrer un petit peu le contraire. Mais l'humilité divine, c'est celle qui me permet de me soumettre, de m'humilier, même en sachant que je suis bien, que je n'ai pas péché, que je n'ai pas pratiqué le mal. Mon frère, après toi, André. Parce que tu sais, le pardon est divin. Hein? Le pardon est divin. C'est Dieu le premier qui a pratiqué le pardon. Parce que c'est contre lui qu'on pêche le premier. C'est à Dieu qu'on a offensé en premier. Même dans la pratique de la vie courante, dans la relation horizontale, le péché vient en premier contre Dieu et après contre notre frère. Et la réaction est le contraire. Je dois me mettre en paix avec mon frère pour être en harmonie avec le Seigneur. Voyez-vous? C'est comme ça. Normalement, c'est comme ça, la réaction. Mais Jésus-Christ, comme je vous dis, c'est l'humilité humaine, je le nomme comme ça, parce que c'est quand même bien de savoir que j'ai péché et que je dois me soumettre, je dois m'humilier, je dois confesser, demander pardon, m'humilier, c'est la volonté de Dieu. Mais l'humilité divine, plus qui dépasse encore cette humilité-là, c'est le fait de savoir que même si je n'ai pas péché, je me soumets à ce que, comme Jésus-Christ, à ce que son sacrifice soit effectué pour le bien de l'humanité. C'est une humilité qui dépasse encore. Parce que je ne sais pas si vous comprenez la dimension que je veux vous expliquer, que je veux expliquer. C'est bien de s'humilier quand on a fait un tort. Mais c'est encore mieux quand je m'humilie en faisant le bien. C'est comme appliquer ce que le Seigneur dit, à moi la vengeance. C'est moi qui va rétribuer le bien et le mal aux hommes. Oui, mon frère. Voilà. Et un exemple très pratique. Très pratique. Hein? Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont nécessairement humbles dans tous les sphères de la vie. Hein? Oui, ce sont des humains. Et on doit veiller par nous-mêmes. par soi-même, puis agir en responsabilité devant le Seigneur, puis devant nos frères. Parce que parfois, on tient compte tellement de Dieu, et c'est bien, c'est lui le principal, mais c'est comme si je m'en fous de mes frères. Hein? Non. Je dois, la relation que Dieu nous demande, c'est verticale puis horizontale. Et il y a la même valeur. Et comme j'ai expliqué, je pense, dans son cours, les 10 commandements, si vous voyez dans Exode 20, 4 commandements par rapport à Dieu et 6 par rapport aux hommes. Alors, ça nous montre combien important c'est pour Dieu l'interrelation, la relation entre nous. Comment on agit entre nous. Oui, mon frère, puis après toi. Oui, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et vous voyez-vous, la demande de Dieu dans les Écritures, ce n'est pas que l'offensant aille à l'offensé. Selon Dieu, c'est le contraire. Celui qui a été offensé doit aller pour parler à l'offenseur. Pour réconcilier cette situation-là. Parce que celui qui peut-être parfois celui qui a fait l'offense, il s'en va, puis il n'est même pas conscient du mal qu'il a fait. Oui, mais nous, voilà, nous qui avons été offensés, c'est en nous qui reste la faute. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, ne demande pas à celui qui... Mais ça ne veut pas dire non plus que si vous avez offensé un frère ou une soeur et vous êtes conscient, que Dieu, ah non, attends qu'il vienne. Non, Dieu ne dit pas ça. Hein? Parce que la Bible dit aussi que c'est tout agissement qui ne vient pas de conscience, c'est péché, c'est un péché, qui ne vient pas de conviction. Alors, il faut le faire. Si vous avez la conviction que vous avez offensé quelqu'un, allez-y en premier, n'attendez pas. Parce que toute chose a sa place. Mais, alors, c'est la conscience de posséder l'Esprit Saint. Mais je vais vous dire ça. Je vais vous lire littéralement ce que j'ai écrit ici. Le rapprochement de Dieu produit en nous plus d'humilité. Et c'est pour ça que je parlais d'une humilité plus divine. Plus on est proche de Dieu, plus on voit sa majesté et par contraste, notre bassesse, notre petitesse. Plus vraiment on est proche de Dieu, plus grand on va le voir, parce que notre Dieu est vraiment grand. Quand on s'éloigne de lui, c'est comme si Dieu n'est pas si grand ou important que je vois. Mais quand je m'approche de lui, je vois la grandeur de Dieu, sa majesté. Alors je suis plus humble devant Dieu, parce que je comprends ma petitesse devant lui et sa majesté. Alors quand je suis près de Dieu, c'est quand je suis plus humble. Je devrais être plus humble. Et voilà ce que produit l'humilité en nous, c'est-à-dire la conscience d'avoir un Dieu saint, majestueux, grand, parfait, saint, c'est ça qui va. Si je suis conscient de ça et je cherche de m'approcher toujours plus de Dieu, ça va me donner davantage, plus d'humilité devant Dieu et devant mes frères et mes sœurs. Et c'est pour ça que je disais, c'est la conscience aussi de posséder l'Esprit Saint en nous, la présence divine, le fait qui doit nous rendre humbles. C'est pour ça qu'on on lisait Jean 13, 3, 5. Et pour avoir l'humilité, pour finir, là, pour avoir l'humilité comme Christ, je dois être crucifié comme lui. Qu'est-ce que Paul disait en Galates? Si quelqu'un veut, s'il vous plaît, m'aider en lisant Galates 5, 24, et quelqu'un d'autre qui lise Romains 8, 13, 14, s'il vous plaît. Galates 5, 24 et Romains 8, 13, 14. Répète encore plus haut, mon frère, ma soeur. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Et Romains 8, 13, 14. Un chrétien qui avance dans la vie chrétienne, c'est un chrétien qui est conscient qu'il doit être crucifié, comme Jésus-Christ. La chair doit être crucifiée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Quelle action a un crucifié, une personne crucifiée? Est-ce qu'il peut bouger librement? Non. Alors c'est ça, c'est pour ça. Si vous, en tant que chrétien ou chrétienne, n'êtes pas conscient de que vous devez être crucifié, difficilement vous allez, moi je vais marcher ou avancer dans l'humilité. Parce que je m'en fous, tout simplement. Et je laisse libre agissement à l'achat, à mes désirs. Mais si je suis conscient qu'en tant que chrétien, vous savez qu'est-ce que ça veut dire originellement chrétien? Un petit Christ. Et si moi je suis un petit Christ, et Christ a été crucifié, alors je dois être aussi crucifié. Je dois imiter Jésus dans toute, oui, dans toute sa vie, dans tous ses faits, dans tout ce qu'il a réalisé ici sur terre. Alors je dois être conscient, si je veux avancer dans l'humilité, je dois être conscient que je dois être crucifié. Ma chair doit être crucifiée avec Jésus-Christ. L'orgueil dans la vie du chrétien lui met contre Dieu. C'est ce que dit Jacques 4, 6. Si quelqu'un le lit, s'il vous plaît. Jacques 4, 6. L'orgueil dans la vie du chrétien lui met contre Dieu. Dans cette position-là. Ou fait réagir Dieu contre lui. Peut-être c'est de cette façon-là qu'on pourrait le dire. Jacques, à haute voix, s'il vous plaît, quelqu'un.
Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
Tout simplement. Même pas besoin d'expliquer ce texte-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Et ce mot « résiste », ce n'est pas le fait passif, de, comme presque, comment je pourrais dire, inactif, indifférent presque. Ce n'est pas ça. Quand il dit « résiste », ça veut dire qu'il est contre la personne qui fait telle chose. Hein? C'est à peu près le même mot qu'il dit quand il dit que les ténèbres ne prévaudront contre l'Église. C'est, cette idée-là, on a, parfois les chrétiens, on se donne l'idée qu'on est là, puis le péché, le mal est en train de pousser la porte, et nous, on retient la porte. Non, c'est le contraire. C'est l'Église qui va contre le mal, puis elle remet contre le mal, et c'est le mal qui essaye de se retenir. Voyez-vous, c'est à peu près la même idée de là. Dieu résiste, c'est qu'il est contre, qu'il va agir contre la personne qui a cette attitude-là. Et en passant, c'est un chrétien. Et moi, juste pour finir, là, je voudrais qu'on voit vite l'exemple que j'ai donné de Moïse. Nombre 12, verset 2 jusqu'au verset 14.
Alors, ils dirent, est seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne fait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. »
Merci, Richard. Voyez-vous comment est-ce qu'on décrit Moïse? Un homme patient.
Non, mais ici,
oui,
patient,
un moment. Oui?
Patient, il est remplacé par humble dans la version de
sa parole. Ah, OK, oui, c'est bon pour ça les différentes versions.
Moi, c'est du sang.
Mm-hmm. Pardon?
Par
Douceur, par sa douceur aussi. Alors, il y a des mots quand même qui sont différents à patient. Oui, c'est ça. Louis II dit patient. Voyez-vous, maintenant, d'autres versions, il donne un meilleur qualificatif. Et en espagnol, mansedumbre. Alors, voyez-vous, de quoi parle le passage? Quand Aaron et Marie ont murmuré contre Moïse, parce que, ben voyons donc, on est moins que Moïse, c'est ça l'idée. C'est l'orgueil. C'est la rébellion qui est de l'avant. Alors, il murmure contre Moïse. Est-ce que Dieu ne l'entend pas? Mon frère et ma soeur, quand on murmure contre quelqu'un de nos frères et nos soeurs, Dieu l'entend. Est-ce qu'il peut faire venir la lèpre contre vous? Oui, il peut. Il peut. Mais là, c'était un exemple très clair, OK, de ce que Dieu a fait. Et trois choses à retenir par rapport à ce passage, puis on finit. Dieu est toujours contre l'orgueilleux. Il le dit littéralement, la parole. Et Dieu était contre eux, contre l'orgueil qu'ils ont manifesté à Aaron, qui est devenu qui? Le grand sacrificateur. Hein? OK? Une chose que je veux qu'on retienne avant de quitter, que Dieu est toujours contre l'orgueilleux. Quand on manifeste l'orgueil, sachez que Dieu est contre vous. Deux, Dieu humilie même parfois ceux qui se révèlent contre nous, les hommes. Si, je ne me souviens pas du passage qui dit que nous, on est bien heureux quand on dit toutes sortes de mal contre nous en disant des mensonges. Je ne me souviens pas du passage, mais il y a un passage qui dit ça. Je veux dire que s'il agit bien pour la gloire de Dieu et quelqu'un en faisant le bien parle mal de moi, je suis bien, bien heureux. C'est ça que dit la parole. Comme Moïse, dans ce cas-là, il avait pas fait du mal. Moïse avait bien agi. Alors, Dieu humilie même parfois ceux qui s'aimaient ou se rebellent contre nous en tant qu'humains. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, Marie devient lépreuse. Et troisièmement, Dieu écoute nos prières. Est-ce qu'il a écouté à Moïse?
Oui.
Quand on s'humilie, Dieu est avec nous, c'est-à-dire le contraire, il est contre les orgueilleux. Deuxièmement, Dieu il va humilier ceux qui se rebellent, même contre nous, dans le cas, Aaron et Marie. Et troisièmement, Dieu écoute nos prières, parce qu'on est humble. Et alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu n'écoute pas nos prières. Et même nous, les hommes, nous, les époux, il dit que quand si on ne traite pas comme il faut nos femmes,